Bonjour et bienvenue dans ce podcast de l'Opéra de Rennes réalisé par Arnaud Vasmer aujourd'hui avec Chloé Dufresne qui sera chef d'orchestre de l'Élixir d'amour, l'opéra de Gaetano Donizetti que vous donnerez à Rennes du 5 au 13 mai avant d'aller à Angers fin mai et à Nantes en juin. Chloé Dufresne, bonjour.
Bonjour.
Quelle place occupe cet opéra dans votre répertoire, dans votre jeune répertoire, puisque ça fait quelques années seulement que vous pratiquez cette activité de chef d'orchestre?
Alors c'est la première production d'opéra dont j'ai la charge entière, donc pour moi c'est un cap un petit peu dans ma carrière, même si j'ai fait des productions en tant qu'étudiante, notamment Norma de Bellini qui est un petit peu dans la même, dans la même lignée, donc voilà, c'est un vrai défi pour moi et c'est quand même du bel canto, c'est le chant, moi je viens du chant. Donc c'est un vrai cadeau de diriger cette pièce.
Et là, pour cet élixir d'amour, vous allez le faire avec des gens qui se connaissent entre eux, puisque vous dirigerez l'orchestre de Bretagne. Certains des chanteurs, je pense à Marie-Ménic Sabouret, je pense à Marc Scofonis, sont des habitués, David Lescaut aussi à la mise en scène, qui avait monté les trois contes de Gérard Pesson. Comment ça compte pour vous, cette interconnaissance des artistes entre eux pour monter ce nouvel opéra?
Bah, c'est génial en réalité parce que c'est un opéra qui est drôle, qui a besoin de connexion entre tous les acteurs et tous les chanteurs qui sont sur scène. Et plus l'ambiance est bonne, même en dehors des répétitions, plus le spectacle sera beau. Et quand les gens se connaissent, c'est toujours plus facile.
Voilà, surtout que vous aurez aussi, puisque c'est vous qui terminez la saison à Angers, à Nantes et à Rennes, c'est vous donc qui avez le droit à l'opéra sur écran, la dernière représentation le 15 juin à Nantes. Est-ce que ça veut dire aussi que vous préparez autrement cet opéra en pensant à cela, c'est-à-dire cette captation et cet opéra hors de l'opéra?
Alors non, je travaille de la même manière. L'idée, c'est un opéra en direct. Et c'est vrai que c'est super que ce soit relayé sur des écrans à l'extérieur. Ça permet vraiment d'ouvrir au grand public et de faire découvrir cette musique et ce drame. Mais je travaille de la même manière. Je prépare mes partitions, je travaille en connexion avec les chanteurs. Et puis on construit tout ça ensemble avec les caméras. Voilà, on met... C'est le même travail pour moi musical.
Alors, Chloé Dufresne, l'élixir d'amour de Donizetti, c'est comme son titre l'indique, une histoire d'amour, mais une histoire d'amour contrariée, celle du naïf Nemorino pour la paysanne Adina, celle-ci le méprisant et voulant épouser un sergent, à moins qu'elle ne se joue de lui ainsi. Et Nemorino décide d'acheter un filtre d'amour pour la séduire, comme dans l'histoire de Tristan et Iseult que lisait justement Adina. Il y a donc une histoire d'amour contrariée, beaucoup de manipulation. Le consentement peut poser la question avec ce qu'est un élixir d'amour. C'est aussi l'histoire d'un anti-héros attachant, puisqu'on a beaucoup de compassion pour ce Nemorino. Mais pour vous, qu'est-ce que ça raconte, cet opéra?
Moi, j'aime beaucoup cet opéra déjà parce que personne meurt, à part l'oncle de Nemorino, mais donc c'est vraiment très joyeux. Ça raconte, c'est quand même une petite sphère, c'est la société, c'est tous les regards sur nos protagonistes, c'est comment on attire l'amour, toutes les tensions qu'il peut y avoir, la vengeance aussi d'Adina qui finalement se marie quand même avec Belcore alors qu'elle n'en a pas du tout envie. Mais c'est quand même une femme forte et intelligente, enfin, elle est maîtresse de son destin malgré tout, mais elle va un tout petit peu loin. Mais voilà, elle est pas faible. Et Nemorino, c'est voilà, on l'attend pas dans ces sentiments-là, on le juge mal finalement, et en fait c'est lui qui a les sentiments finalement les plus profonds, les plus sûrs, et c'est ça qui est beau. Et voilà, donc ça, enfin en fait, ça raconte la vie et c'est très actuel.
Absolument, et ça dans une communauté très fermée, puisque ça se passe dans une ferme, hein, quelques champs. Il y a très peu de monde qui vient de l'extérieur. Il y a les militaires qui arrivent au début et qui partent à la fin. Et c'est justement en annonçant le départ des militaires que Adina précipite le mariage avec le sergent. Il y a le charlatan qui apporte le filtre d'amour qui vient de l'extérieur. Mais ça raconte aussi quelque chose d'aujourd'hui sur la sphère privée-publique, où le privé est soumis au public, puisque tout ce qui se passe dans le village, tout le monde le sait, tout le monde le juge, et c'est comme ça aussi que Nemorino devient le souffre-douleur d'Adina. C'est aussi en raison des attentes des villageois et de ce qu'il subit.
Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment un microcosme avec toutes les tensions, le regard qui pèse, le... les envies qu'on peut avoir mais qu'on n'ose pas mettre en avant, c'est beaucoup de choses. C'est aussi le pouvoir de l'espoir et de ce qu'on se dit un petit peu dans notre tête qui fait qu'on croit ou pas à ce qu'on peut faire. Enfin voilà, c'est un opéra très porteur d'espoir et qui nous dit un petit peu qu'on est maître de notre vie.
Malgré deux mots qui traversent tout l'opéra, qui sont celui de soumission d'un côté et celui de liberté de l'autre. Il en est question pour le travail, là aussi ça renvoie à des questions évidemment très actuelles, mais il en est aussi question de l'amour, puisque Sine Morimo est sincèrement amoureux d'Adina. Elle lui répond à un moment qu'elle enchaîne les amoureux et que c'est sa manière d'être libre, donc ça parle quand même de liberté et de soumission et que l'espoir, il doit composer avec cela.
C'est vrai, c'est l'espoir qu'on a pour nous-mêmes parfois n'est pas en relation avec ce que les autres pensent, et c'est la liberté de chacun aussi à respecter.
Et vous l'avez dit, Claudie Friends avait commencé par là, c'est du bel canto, c'est-à-dire qu'il y a aussi tout ce romantisme. L'opéra, il date de 1832, adapté de l'opéra d'Auber de 1931 et de la pièce de Scabine qu'il avait écrit pour l'opéra d'Auber, mais on est aussi dans le romantisme le plus exalté, le plus extrême. Est-ce que c'est aussi comme ça que vous envisagez la participation, c'est-à-dire qu'on se joue des sentiments poussés à l'extrême, que ce soit des sentiments amoureux ou des sentiments de jalousie aussi, donc les passions tristes?
Oui, bien sûr. Et dans la musique, vraiment, on est vraiment au début du romantisme. On est vraiment on pousse ce sentiment à l'extrême. Et en plus, là, on peut aller un tout petit peu dans la caricature parce que c'est jocose, c'est joyeux, c'est fait pour être drôle. Et donc, on peut vraiment s'amuser aussi musicalement en poussant un tout petit peu les traits des personnages.
Avec des personnages qui sont plus favorables pour cela, c'est-à-dire que le charlatan est quand même, enfin le vendeur ambulant est vraiment un charlatan, c'est-à-dire qu'il a un pouvoir de la parole, il est capable de vendre à peu près tout à n'importe qui, en fait c'est du mauvais Bordeaux, mais il le fait passer pour n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il y a aussi des personnages qui portent ce jeu, qui portent cet humour.
Oui, tout à fait. Et Dul Camara, c'est vraiment l'air de virtuosité, de diction, vraiment dans l'opéra. Et il est drôle par lui-même, déjà. Mais c'est vrai qu'on peut jouer. Là, on a quelqu'un qui parle italien, enfin qui est italien, Giorgio Caudoro. Et donc, on peut vraiment jouer avec le tempo. Il va très vite et c'est drôle en soi, en réalité.
Parce qu'il ne sera pas le seul à parler italien, puisque l'une des particularités de cet opéra, c'est que les rôles sont joués tantôt par des Français, tantôt par des Italiens, suivant les représentations. Hein, Perrine Madoff et Mathias Vidal pour les rôles principaux en français, ou Maria Grazia Chiavo et Giulio Pellegra en italien. Est-ce que ça veut dire, dans votre manière dont vous préparez les représentations, que ce sont quand même deux représentations, deux groupements de représentations différents, parce que le rapport à la langue n'est pas le même, même si l'italien, évidemment, pour un chanteur lyrique, c'est une langue familière.
Alors, je ne sais pas si c'est le rapport à la langue, mais en tout cas, la tradition et peut-être l'éducation de chacun. Mais on a vraiment deux castes très différents. Mais du coup, on n'a pas envie de les comparer. Ils sont vraiment différents. Le caste français a un côté un petit peu plus instinctif, un petit peu plus léger, beaucoup dans le jeu. Le caste italien, c'est la voix, c'est le bel canto. Ils ont des caractères différents. On a aussi nos deux Adina, une voix plus légère, une voix un petit peu plus large. Pareil chez les Nemorino. Donc tout ça change les tempos, les tempi, tout ça change aussi la mise en scène, le caractère de chacun. On a vraiment deux Nemorino particulièrement très différents, qui sont touchants à leur manière. Donc on fait un peu deux mises en scène et deux interprétations, on est obligé. Et c'est ça qui est beau dans l'art.
C'est particulier de préparer deux opéras en un à partir d'une même partition. Justement, comment vous décidez, comment vous vous accommodez avec les désirs du metteur en scène, avec aussi les potentialités de chacun des interprètes pour trouver la bonne interprétation dans ces deux cas?
Alors déjà la communication, c'est le plus important. David Lescaut à la mise en scène est très attentif au caractère de chacun. Il est beaucoup dans le jeu, justement. Il essaye de discuter beaucoup du caractère des personnages, de faire en sorte que chacun trouve son rôle et l'incarne au mieux. Et donc après, nous, on s'adapte, et évidemment j'essaye quand même pour l'orchestre et pour le bien de tout le monde que les choses soient à peu près pareilles, parce que sinon on ne s'en sortira pas. mais voilà, on est flexible, et puis c'est du live, on est en direct et on fera au mieux pour la musique.
toute façon, ce sera une dizaine ou une douzaine de représentations différentes. Mais comment vous l'anticipez? Voilà, j'aimerais vous creuser un peu plus cette question-là. Vous dites effectivement, ça reste la même participation. Donc, on essaie de rester le plus proche. Mais en même temps, vous avez bien dit que les caractères n'étaient pas les mêmes, que les manières de s'exprimer n'étaient pas les mêmes. Donc, il y avait des changements sur le tempi, des changements sur l'atmosphère. Comment vous sentez que vous pouvez conduire l'orchestre vers une direction ou une autre?
Alors, j'ai pas encore rencontré l'orchestre, mais déjà les chanteurs, si eux créent des nuances sur scène, en fait par l'écoute et par l'écoute aussi de l'orchestre qui les entend malgré tout, on va pouvoir justement créer des couleurs différentes et puis les tempi, l'orchestre va suivre. C'est vraiment, voilà, c'est du live, on est des professionnels et le fait qu'on répète beaucoup et qu'on se connaisse bien finalement nous permet de réagir en temps réel et de créer à chaque fois une nouvelle performance et une nouvelle représentation.
C'est un opéra, l'Élixir d'amour, qui offre parmi les plus belles pages des chants du bel canto. Hein. D'ailleurs, c'était en 1832 quand il a été créé. Même le journal de Milan, qui était très critique par rapport à Donizetti, a dit que tout est beau, tout y est beau dans cet opéra. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la force des chants, que ce soit des chants solistes, des chants à Dieu, trois ou des groupes, dans la manière dont vous, en tant que chef d'orchestre, Chloé Dufresne, vous les préparez, vous les anticipez et là où vous voulez conduire l'ensemble?
Oui, en fait, cet opéra est très bien construit. On a des duos, on a des quatuors, des trios qui arrivent au fur et à mesure. On a aussi le tempo qui s'accélère un petit peu, l'émotion, tous ces finales un peu rossiniens, très rapides, donc qu'il faut en effet construire. Évidemment, l'air principal, Una furtiva lagrima, qui arrive au deuxième acte. Et c'est vrai que moi, je l'ai découvert en faisant cette production un petit peu, dans le sens où vraiment cet air arrive à un moment de l'opéra où il s'est tellement passé de choses avant que le pouvoir sensible de ce moment-là est décuplé par rapport à quand on l'entend en version concert.
Il y a vraiment... ou dans un film, puisque je crois que Woody Allen l'a utilisé dans Match Point.
Tout à fait. C'est évidemment un air qui a été beaucoup utilisé et qui est très connu du grand public, même ceux qui n'écoutent pas spécialement d'opéra. Mais vraiment, d'éprouver l'opéra avant, le premier acte et le début du deuxième acte, et d'arriver sur cet air, c'est vraiment un moment d'émotion qui est encore plus profond. Et donc ça, je le construis aussi un petit peu, forcément.
Juste pour les auditeurs qui ne le repèrent pas forcément dans l'histoire, où est-ce qu'on en est quand arrive cette ère dans l'histoire? Qu'est-ce qu'il raconte?
On est dans le deuxième acte. Il raconte le moment sensible où il a vu Adina, où il a senti le sentiment d'Adina réciproque envers lui.
Vous l'avez dit aussi, voilà, les airs s'enchaînent, mais en même temps, il y a une progression. Comment justement vous anticipez cela pour ne pas... C'était le reproche qui a été fait à l'opéra d'Aubert, qui a été créé un an plus tôt, que c'était finalement un enchaînement de numéros, mais qu'il n'y avait pas vraiment de cohérence entre comment est-ce que là, vous articulez à la fois chaque air individuellement dans ce qu'il doit être, mais en même temps dans sa progression, c'est-à-dire dans son unité, pour pas qu'on passe d'un numéro à un autre, mais bien qu'il y ait une histoire et une atmosphère qui progresse tout au long de l'opéra.
Alors, je suis aidée par la partition, évidemment. C'est très bien écrit. Les récitatifs sont assez courts, ce qui permet que le drame ne retombe pas et justement qu'il avance constamment. Alors après, on a fait quelques coupures malgré tout, puisque dans le bel canto, l'idée, c'est quand même de varier au deuxième couplet, troisième couplet. Mais quand c'est tout le long comme ça de l'opéra, c'est vrai que c'est assez long, donc il y a quelques coupures, mais sinon l'idée c'est vraiment c'est le tempo qui crée la tension sur tout l'opéra, et donc je cherche avec les chanteurs, on cherche ensemble pour construire ça. C'est un petit peu instinctif. Évidemment, je le prépare et je le travaille, mais selon l'état des chanteurs, selon l'humeur, selon la mise en scène, les choses changent et c'est du live. Donc, on ne peut pas tout prévoir et il y a vraiment quelque chose de ressentir la forme générale de l'opéra. Et donc, moi, je m'attelle à ça. C'est un peu mon rôle de construire tout ça sur le long terme. Et voilà, mais c'est par le tempo vraiment, je pense que je construis le drame.
Qu'est-ce qui a décidé des coupures?
C'est moi. C'est moi qui ai fait les coupures. Après, je l'ai fait en collaboration, évidemment, avec le metteur en scène. Et avec, donc, on a rouvert, d'ailleurs, une coupure que j'avais décidée parce que le metteur en scène voulait, justement, utiliser la musique qui avait été coupée. Mais on a rouvert aussi, justement, une variation pour l'air d'Adina à la fin du deuxième acte pour permettre aux deux chanteuses de montrer de quoi elles sont capables et de rentrer vraiment dans la tradition du bel canto, de varier les deuxième et troisième couplets. Donc voilà, on a rouvert des choses que j'avais initialement fermées, mais on a refermé certaines choses aussi. Voilà, c'est du travail en collaboration avec tout le monde.
Justement, comme ça me permet de vous interroger sur votre travail avec le metteur en scène. Quelles étaient vos attentes par rapport à David Lescot et quelles étaient les attentes de David Lescot par rapport à vous ?
Alors, pour les attentes qu'il avait par rapport à moi, il va falloir le lui demander. Mais moi, les attentes que j'avais, déjà, c'était qu'on s'entende bien. Parce que c'est pas toujours le cas. Et c'est quand même beaucoup mieux quand on passe un mois et demi ensemble. Il vaut mieux bien s'entendre dans le travail. Et moi, ce que j'adore chez lui, c'est vraiment son attention au psychologique du personnage. C'est quelque chose qui me touche, qui m'intéresse et qui me nourrit dans mon interprétation musicale. Et j'ai changé des choses que j'avais décidées musicalement. Justement, on parlait de tempo, mais vraiment, j'ai changé des choses et j'ai un tout petit peu... Je me suis un tout petit peu écartée de la partition parfois pour servir sa mise en scène. Et voilà, et on travaille vraiment côte à côte et c'est super.
Vous l'avez dit, vous n'avez pas encore travaillé avec l'orchestre, hein, qui sera l'Orchestre National de Bretagne. On enregistre, on est quoi, 4-5 semaines avant les premières représentations. Quel va être votre travail avec eux quand vous allez ensemble vous découvrir? Je crois que c'est la première fois en plus que vous allez diriger cet orchestre.
Oui, alors mon travail déjà, ça va être de lire la partition, de leur expliquer, enfin voilà, tout le travail entre guillemets technique de placer les choses, comment on les joue, de quelle manière, tout ça. Mais ça va être aussi de les embarquer un tout petit peu avec moi pas qu'un tout petit peu d'ailleurs, hein, de les embarquer vraiment avec moi et dans le drame et avec les chanteurs qui seront sur scène, leur faire prendre part au drame parce qu'ils sont en fosse, ils verront pas ce qui se passe. Et donc, pour se sentir investi quand on est un orchestre de fosse, il faut un relais. Et donc, en l'occurrence, c'est moi. Et voilà, l'idée va être de créer de l'enthousiasme aussi de la fosse. Ça change le son et tout ça pour servir évidemment le plateau.
Vous avez un parcours original, Chloé Dufresne, voilà, commençant par la France, mais vous êtes formé en Finlande. Alors, il se trouve que l'Orchestre de Bretagne connaît quelques chefs finlandais qui sont passés ces dernières années à la direction de cet ensemble. Qu'est-ce que vous avez appris en Finlande qui vous sert aujourd'hui dans votre manière de penser, votre activité de chef d'orchestre ?
Ouh là là, j'ai appris énormément de choses. J'y ai passé 5 ans et demi. J'ai appris une culture différente. Une manière différente d'aborder l'art. En France, on a quelque chose de très, très hiérarchique avec les professeurs qui nous enseignent. La Finlande, ça vient vraiment de l'élève. Il y a quelque chose de beaucoup plus horizontal dans les rapports humains. Donc ça, je l'ai appris. Ça m'a permis aussi de prendre conscience de tout mon bagage de mon éducation française qui est super et de voilà de prendre conscience que la France c'est génial aussi, mais c'est une des choses que j'ai appris. Et puis ensuite et donc humainement ça ouvre évidemment, et puis après dans le travail c'est une école, la Sibelius Academy qui est superbe avec beaucoup beaucoup de pratiques devant l'orchestre. Donc j'ai simplement appris à me mettre devant un groupe et à assumer mes idées musicales.
Vous l'avez dit, cette horizontalité contre la verticalité qui a pu être dans cette tradition de chef d'orchestre, est-ce que du coup ça vous fait un peu correspondre à une ère du temps, ou en tout cas un renouvellement de la manière de penser cette activité, ce rapport entre un chef, une chef et son orchestre, qu'on n'est plus sur les chefs, les grands chefs tyranniques des décennies précédentes, mais que comme dans le monde du travail, il y a aussi des mutations dans la manière d'être chef d'orchestre.
Oui, tout à fait. Les choses s'horizontalisent aussi en France. Et en plus, évidemment, en tant que jeune chef d'orchestre, qui plus est femme, le côté autoritaire ne fonctionne clairement pas dans le leadership d'aujourd'hui. D'autant plus que les orchestres sont aussi de plus en plus compétents et donc de plus en plus autonomes. Et ils n'attendent pas de nous qu'on leur dise quoi faire. Vraiment pas. On a des gens ultra compétents. Donc l'idée est vraiment de créer un groupe, une atmosphère pour que tout le monde donne le meilleur de soi-même, sans chef finalement. C'est-à-dire que moi je suis là pour prendre des décisions parce qu'il faut bien que quelqu'un décide, mais l'idée c'est qu'on fasse quand même quelque chose ensemble, évidemment. Et ça, c'est une idée de plus en plus répandue dans le milieu de la musique, et c'est génial.
C'est sur ce mot de génial que de le refermer. Ce podcast, ça sera donc à voir avec l'élixir d'amour de Donizetti dans la mise en scène de David Lescaut, donc à l'Opéra de Rennes du 5 au 13 mai, à Angers fin mai et à Nantes en juin, avec le 15 juin la diffusion sur de nombreux écrans dans les villes de Bretagne et des Pays de la Loire. Claude Dufresne, merci beaucoup à vous.
Merci à vous.
C'est un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour l'Opéra de Rennes.